sur les ondes de Canal M, c'est l'heure du National avec Clotilde Seil. Pour tout savoir ce qui se dit en français à l'extérieur des frontières de la province du Québec, eh bien vous êtes au bon endroit. J'ai fait pour vous encore une fois le tour de tous ces journaux où l'on écrit en français pour les francophones qui vivent sur la terre canadienne d'est en ouest et donc pas seulement au Québec. Et on commence tout de suite, tiens, avec la Voix acadienne. Ça, la Voix acadienne, comme ils le disent là-bas, c'est votre journal francophone de l'île du Prince-Édouard. Les journaux restent inquiets malgré l'annonce de 14,5 millions de dollars. Voilà, je vais y arriver. Un article d'Alexandre Roy qui dit « Depuis plusieurs mois, l'Association de la presse francophone, l'APF, tire la sonnette d'alarme sur la situation critique de ses journaux membres. C'est un signe encourageant de voir que les médias communautaires se retrouvent dans le plan d'action, mais nous jugeons que ce n'est malheureusement pas suffisant. » C'est ce qu'indique le président de l'APF, Francis Saunier. Le fonds d'appui stratégique aux médias communautaires de 10 millions de dollars sur 5 ans pour financer des projets et les 4,5 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour créer des stages ne répondent pas aux besoins immédiats des journaux. On parle de projets, mais comment faire des projets quand on a des défis opérationnels ? On vit au jour le jour, on ne se projette pas, renchérit Francis Saunier dans un entretien avec TFO. Parmi les journaux francophones au Canada, il y en a qui n'ont que quelques employés et d'autres qui doivent licencier plusieurs personnes. Ça prend une aide d'urgence dans les opérations d'ici 3 mois. Il y a des journaux qui risquent de fermer, ainsi que des radios communautaires, insiste le président de l'APF dans un entretien avec La Voix acadienne. Quelques temps avant le dévoilement du plan d'action, l'APF et ses partenaires, l'Alliance des radios communautaires du Canada, l'ARC du Canada et le Québec, ont expérimenté devant le Comité permanent des langues officielles le besoin d'obtenir un fonds d'urgence de 2 millions de dollars pour répondre aux besoins immédiats. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de langues officielles, Alupa Clark, a souligné le fait que les médias communautaires jouent un rôle central dans la vie des petites communautés, encore plus dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire, où ils sont un outil important à la vitalité de la langue et le sentiment d'appartenance. Sans ces médias, la survie même de ces communautés est en péril, a fustigé Alupa Clark dans un entretien public. Les journaux ont beaucoup perdu dans les dernières années, notamment en revenus publicitaires du fédéral. Ça prendra beaucoup plus que ce qui est annoncé dans le nouveau plan sur les langues officielles pour nous en sortir. On doit rester très créatif dans nos projets si l'on veut survivre, souligne la directrice de la Voix acadienne à l'île du Prince-Édouard, Marcia Henman. Vous comprendrez que pourquoi ce sujet nous intéresse en premier chef, nous qui faisons état de ces journaux francophones à chaque semaine dans le National, sur les ondes de Canal M. Un plan d'action de bon augure, dit Luca Pileri, c'est dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. Au-delà de la grosse enveloppe, c'est l'approche du par et du pour que les organismes célèbrent. On parle de réaction au plan d'action pour les langues officielles. Le gouvernement a bien écouté les demandes de la communauté, estime Martin Théberge, président de la Fédération culturelle canadienne-française, la FCCF. Le responsable souhaiterait même aller plus loin avec un par pour et avec, réclamant ici une réelle collaboration avec le gouvernement. C'est en travaillant ensemble qu'on obtiendra le meilleur impact de ces investissements, précise-t-il. John Johnson était à Ottawa lors de l'annonce et s'est même entretenu en comité restreint avec le premier ministre et la ministre du patrimoine canadien avant le dévoilement. « J'ai adoré le ton des discours », commente-t-il, le président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA, est lui aussi enchanté par l'approche. « Il y a un désir de changer la culture au sein de l'appareil gouvernemental. Le par et pour reflète le besoin des communautés de se prendre en main. » Pour Linda Cardinal, professeure de sciences politiques à l'Université d'Ottawa, le gouvernement a démontré qu'il prenait toute la mesure de ses obligations. Elle se réjouit de ce que les langues officielles soient enfin reconnues comme une source de fierté, de richesse et d'identité, plutôt que dans une logique économique comme avant. Malgré tout, la titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques met un bémol à la notion de part et pour. C'est une version très édulcorée dans la réalité. Il y a eu certes un travail de consultation et de collaboration, mais ce que les communautés veulent, c'est avoir le contrôle des orientations. Ce n'est pas la même chose. Le principe de subsidiarité, n'est pas dans le plan. Les organismes communautaires ont été entendus. Les investissements se feront directement, sans passer par des transferts provinciaux. Aussi, tous les organismes soutenus présentement par Patrimoine canadien recevront une bonification de leur financement, et ce, dès le 1er avril. C'était nécessaire. Ça faisait 10 ans que les enveloppes n'avaient pas bougé, alors que tout est à la hausse, relève Martin Théberge. Dans le secteur culturel, plus de 11 millions de dollars seront investis. Le gouvernement a reconnu le secteur des arts, culture et industrie culturelle comme étant l'un des vecteurs du développement de nos communautés, se félicite le président de la FCCF. Le plan d'action renouvellera par ailleurs l'entente multipartite avec le lancement du corridor touristique et patrimonial pan-canadien, l'augmentation du financement de Radio-Canada et de nouveaux investissements pour des agences culturelles telles que le Conseil des arts, le Centre national des arts, l'Office national du film et le Fonds des médias. La culture joue un rôle primordial, c'est l'identité d'un peuple et c'est aussi un vecteur d'intégration pour les nouveaux arrivants, exprime Martin Théberge. Linda Cardinal n'est pas très inspirée, elle, par le plan d'action qui, d'après elle, s'apparente bien plus à un plan d'investissement. Ça ressemble plus, a-t-elle dit, à un catalogue, une liste d'investissements sans trop de détails. On le lit comme un budget, c'est son regret. Pour la professeure, le plan manque de cohérence. Je m'attendais à quelque chose de plus fort et de mieux coordonné. Il manque une vision, des orientations, des objectifs précis et mesurables, analyse l'experte. Elle reproche aussi l'absence d'action concrète et aimerait trouver un plan d'action pour la fonction publique. Malgré tout, la plupart des parties prenantes sont emballées par ce plan d'action, mais plusieurs restent prudentes. La balle est dans notre cours. C'est à nous de bien agir et démontrer le bien fondé de ces investissements, insiste Jean Johnson. C'est loin d'être la fin du travail, conclut Martin Théberge. Restez là, à venir à l'émission dans quelques secondes, un éditorial d'Hélène Lequit dans le Franco-Alberta. Elle n'est vraiment pas d'accord avec ce plan d'action. Tu redonnes. Alors, l'ami Dumas sur les ondes de Canal M, je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Seille et c'est l'émission Le National. Je vous amène maintenant dans le Franco. Le Franco, c'est un journal de l'Alberta et il sera question encore là du plan d'action et des médias communautaires. Et d'après Madame Hélène Lequitte, qui signe un éditorial, il s'agirait d'un pur et simple coup d'épée dans l'eau. Le 28 mars, écrit-elle, le premier ministre Justin Trudeau et la ministre de patrimoine canadien Mélanie Joly, voyons, ont annoncé le nouveau plan d'action en direct sur les langues officielles à l'école élémentaire Maurice Bélanger. Au-delà du montant historique de 2,7 milliards de dollars étalés sur 5 ans, les 10 millions annoncés en soutien pour les médias communautaires font grise mine. L'urgence et la réalité que connaissent les médias communautaires ont été finalement bien peu comprises. Ces 10 dernières années, les journaux ont accusé une baisse de leurs placements publicitaires de 20 millions de dollars. Cette dégringolade sévère a causé un impact irrémédiable sur la rentabilité de nos journaux. L'annonce de 10 millions sur 5 est une somme, certes, mais ce n'est pas suffisant pour endiguer l'hémorragie causée depuis 10 ans. Des journaux et des radios sont saignés à blanc, dit Madame Lequitte, et continuent de fermer au moment où je rédige ces lignes. Certaines ou certains fermeront dans une semaine, dans un mois ou encore dans 6. Le compte à rebours est déjà enclenché. Certains l'ont très bien dit, si les journaux étaient amenés à disparaître, les communautés francophones en situation minoritaire tomberaient dans l'oubli. Au-delà du débat sur le virage numérique, qui est une nécessité mais non une priorité, la réalité des journaux consiste à développer rapidement une capacité administrative suffisante afin de rendre les journaux et les radios opérationnels. Des chiffres avaient circulé de l'ordre de 50 millions de dollars pour les médias communautaires, dont un 20 millions de rattrapage historique pour la perte des publicités fédérales. Les 10 millions annoncés pour soutenir les médias communautaires donnent un bel effet d'annonce, mais ne cerne pas le problème. La ministre Joly a parlé d'un appui des médias en situation minoritaire pour continuer à être le vecteur d'identité des communautés. 10 millions sur 5 ans, c'est peu. Surtout quand les besoins identifiés concernent des frais opérationnels comme la création immédiate de postes en journalisme, en développement marketing ou bien encore dans le domaine de l'administration. Les bonnes intentions semblent être là, un plan d'action qui veillera sur la promotion et la protection des langues officielles d'un bout à l'autre du pays, a déclaré le Premier ministre lors de sa présentation du plan d'action. Mais pour protéger encore, faudrait-il savoir évaluer les besoins immédiats et réparer les dégâts causés. La ministre Joly a mentionné des tendances préoccupantes concernant la situation des langues officielles en milieu minoritaire. La tendance préoccupante pour les médias communautaires, c'est que le virage du numérique soit jalonné par les cadavres de nos journaux ou de nos radios. Les 10 millions alloués semblent être destinés exclusivement à appuyer des projets dans le domaine, le numérique, certes, mais à quel prix ? Après l'annonce du plan d'action et la déception qui a suivi, force est de constater que dépendre indéfiniment de la mamelle fédérale n'est plus la solution. Les mêmes façons de faire depuis des années ne sont peut-être plus d'actualité. Regardons la vérité en face, il est temps d'entreprendre, d'innover, de développer l'aspect entrepreneurial des journaux, tant sur l'échelle locale que nationale. L'indépendance des journaux relève souvent de l'indépendance intellectuelle et journalistique. Mais que dire de l'indépendance financière ? Les temps changent et il est temps de changer avec nos façons de faire et de penser. L'heure n'est plus aux négociations, mais bel et bien à l'innovation. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La déprime tire du gomme, la lune me donne 56 bonnes raisons de chialer. Ça va prendre plus qu'un galon blanc cassé pour tenir la porte de la cuisine. Le poêle et la gaz est à full pin. Il fait chaud dans le camp. Y'a rien à faire, j'dors en cuillère avec des ice packs de camping. J'pratique ma vie pour le reste de mes jours. J'calcule les heures que j'ai en moins.
les filles qui t'ont fait l'amour. Puis je manque de doigts. Mais maudit beau sans dessin. T'es où, dis-moi, tu reviens quand j'ai l'air d'un brise-glace dans le désert. Y'a tout ce qu'il faut ici pour rien vouloir. J'te jure que j'suis pas chargée à blanc. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'attends? J'suis pas une conne. Oh, 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 moi mon linge. Beau sans dessin, mais maudit beau sans dessin.
Les Sœurs Boulet sur Canal M. Slogan bilingue, est-ce une nécessité? C'est dans L'Express, une revue francophone qui sort à Toronto, en Ontario. Alors, French ton vote, right, fier, Frenchement bon. Les slogans bilingues se multiplient et ils sont loin, nous dit Luca Pilleri de Francopresse, de faire l'unanimité. Leur usage semble pourtant répondre à un besoin chez les francophones du Canada anglais. Jeunes, politiques, apprenants, beaucoup plaident pour la cohabitation des deux langues officielles. Le slogan « French ton vote » a été utilisé en automne 2011 par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, dans le cadre des élections provinciales. Le but, mobiliser des francophones à exercer leur droit de vote. On a un pouvoir politique, souligne Carole Jolin, présidente de l'AFO, rappelant au passage que le vote francophone représente, dans plusieurs régions ontariennes, jusqu'à 30% de l'électorat. Ça dit aux politiciens de s'assurer d'avoir des politiques pour les francophones, ajoute-t-il. Plus récemment, c'est le slogan « Right Fier » utilisé lors des Jeux de la francophonie 2017 à Moncton-Dieppe qui a défrayé la chronique. Pour Sue Duguay, vice-présidente du conseil de direction de la Fédération organisatrice des Jeux, la Fédération de la jeunesse canadienne-française, la FJCF, il y a un manque de compréhension à l'égard de cet usage. Elle précise que ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont choisi le slogan dans le respect du mandat par et pour les jeunes de la Fédération. Que les jeunes choisissent d'utiliser un slogan maniant les deux langues officielles est assez logique pour Carole Jolin. On est en situation minoritaire. Si on veut être capable de rejoindre nos publics cibles, il faut pouvoir s'exprimer dans les deux langues, soutient-il. Pour le dirigeant de l'AFO, le bilinguisme est clairement un atout. Avoir nos jeunes capables d'œuvrer dans deux langues, parfois trois ou quatre, c'est une richesse. Cet entremêlement du français avec l'anglais se retrouve aussi en politique. Les politiciens doivent s'assurer qu'ils ont des liens avec les francophones, qu'ils comprennent leurs enjeux et leurs défis, observe Carole Jolin. Au niveau professionnel, la main-d'œuvre bilingue qualifiée est de plus en plus recherchée. Enfin, dans l'éducation, le président de l'AFO rappelle que l'Ontario compte 100 000 étudiants en école francophone et 200 000 étudiants en immersion. Et de conclure, à Toronto, si tu ne parles qu'une seule langue, tu es minoritaire. pour Ali Reguigui, linguiste au département d'études françaises à l'université Laurentienne, il est naturel d'employer des slogans bilingues. La langue, c'est comme un être humain, elle est vivante, elle interagit avec son milieu. Il perçoit notamment en politique leur usage comme un clin d'œil inclusif. Mais si le bilinguisme est une richesse, c'est sa forme additive qu'il faut défendre, selon le professeur. Le bilinguisme additif est un type de bilinguisme dans lequel la langue maternelle est autant valorisée que la langue seconde. On est capable de maîtriser les deux langues et de se prévaloir de la richesse des deux langues. Alors qu'avec le bilinguisme soustractif, la langue maternelle n'est pas valorisée, ce qui aboutit à l'aliénation et à l'assimilation, explique-t-il. Pour Sue Duguay, qui est aussi présidente de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, identifiée francophone et bilingue ne s'oppose pas fatalement. Ce n'est pas parce qu'on s'identifie comme bilingue ou francophone qu'on ignore l'un ou l'autre, on s'en va tous dans la même direction, estime-t-elle. L'utilisation de slogans bilingues est aussi une façon de lutter contre l'insécurité linguistique pour Carole Jolin. J'ai été 30 ans dans le domaine de l'éducation, avec des jeunes issus de milieux exogames ou anglophones, et à force de les reprendre, ils finissent par ne plus parler français, prévient-il. À la FJCF, on préfère parler de sécurité linguistique afin de donner un aspect positif à la façon dont ils le souhaitent, un aspect positif à la question. Je vous ai raté une ligne, mes pauvres amis. On permet aux jeunes de s'exprimer de la façon dont ils le souhaitent, en dépit des accents et des différentes réalités régionales. Ils prennent conscience que « right », fier, est une façon possible de s'exprimer, relève Sue Duguay. Le linguiste Ali Reguigui y trouve aussi un aspect ludique non négligeable. Si on refuse aux jeunes de pouvoir jouer avec la langue, on va leur enlever le goût de la pratiquer, de la parler. Et d'en être fier, avise-t-il. Ces usages traduiraient ainsi le profil des jeunes en 2018. La jeunesse d'aujourd'hui est ouverte sur le monde, sur les autres langues, et à plus forte raison, sur l'anglais, commente le spécialiste.
Emmène-moi au bout du monde, emmène-moi comme autrefois, emmène-moi rien qu'une seconde. Est-ce si loin tout ça pour toi? Pourquoi faut-il que dans la vie il soit des jours où c'est fini? Pourquoi faut-il que dans ma vie ce soit toi qui me l'aies appris? Souviens-toi le dimanche, on regardait passer ceux qui avaient de la chance, ceux qui ne sont pas pressés, ceux qui ne sont pas à pied. On se contentait d'un banc ou d'un carré de pelouse, et tu me disais, viens-t'en. Toi, tu regardais ma blouse. Quel beau dimanche c'était, et l'on s'aimait, et l'on s'aimait. Emmène-moi au bout du monde, emmène-moi comme autrefois, emmène-moi rien qu'une seconde. Est-ce si loin tout ça pour toi? Pourquoi faut-il que dans la vie il soit des jours où c'est fini? Pourquoi faut-il que dans ma vie ce soit toi qui me l'aies appris? Une fois de temps en temps, le cinéma de quartier, après c'était le restaurant. Oubliant les cafés, envahis et troublés. En revenant chez nous, pas un mot entre nous, on se retrouvait très loin. Je crois, tout au bout du monde, on s'oubliait très loin, à peine quelques secondes. Emmène-moi au bout du monde, emmène-moi comme autrefois, emmène-moi rien qu'une seconde.
est-ce si loin tout ça pour toi? Pourquoi faut-il que dans la vie il soit des jours où c'est fini? Pourquoi faut-il que dans ma vie ce soit toi qui me l'ait appris?
Un émouvant serment de citoyenneté à Hamilton, c'est dans le régional.com. Le Canada compte 24 nouveaux citoyens dans son giron. Francophones pour la plupart, ils ont prêté serment à Hamilton, d'où vient ce journal, le jeudi 12 avril dernier lors d'une cérémonie protocolaire empreinte de solennité et d'émotion organisée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l'IRCC. En présence de leurs proches réunis dans le gymnase de l'école élémentaire catholique Notre-Dame, les récipiendaires assis au premier rang ont attentivement écouté le discours du docteur Gary Warner. Vous vous engagez à partager ensemble les valeurs d'un pays démocratique qui reconnaît les droits et les libertés de chacun, a-t-il déclaré, prenant en exemple le droit de vote et la liberté d'opinion. Des frissons parcourent les épaules de l'assistance au moment de jurer fidélité à la couronne et puis d'entonner les hymnes franco-ontariens. Mon beau drapeau est national et le national au Canada chanté par la chorale de l'école. C'est une grande joie, glisse Sabine Beltré-Victor, émue au moment de recevoir le certificat de citoyenneté des mains du président de cérémonie. C'est la fin d'un parcours difficile et stressant entre les examens à passer et les documents à fournir. Cette Haïtienne a trouvé refuge avec son fils Vladimir aux États-Unis puis au Canada après une longue attente à la frontière du Niagara. Restez des nôtres, j'ai d'autres papiers pour vous. Notamment, nous allons revenir inévitablement sur cette tragédie qui a choqué, frappé le Saskatchewan la semaine dernière.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, page pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, lucioles, elfe follet, elfe faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes. Joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. Qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. déjà le ciel blanchi. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Champagne.
Voilà, après Jacques Higelin qui nous a quittés récemment, bien, un autre événement triste a endeuillé une communauté en Saskatchewan, communauté sous le choc, un pays en deuil. Bien sûr, je fais référence à cet accident qui a emporté toute une équipe de hockey junior dans l'eauvive.ca. Il y a ce papier qui nous rappelle que le vendredi 6 avril donc 2018, vers 17h30, à l'intersection des autoroutes 335 et 35, à 28 km de Teesdale, un accident impliquant l'autobus de l'équipe hockey junior de Humboldt et un semi-remorque a fait 16 victimes et 14 blessés. Et cette catastrophe a évidemment secoué les citoyens de Humboldt, une petite communauté de 6000 habitants qui appuyait ardemment son équipe dans les séries éliminatoires de sa ligue. Les Fransaskois, tout comme les habitants de Humboldt, les citoyens canadiens et la communauté internationale ont été sous le choc à l'annonce de cette tragédie. Paul-Émile Lheureux, député de Zénon Park de l'Assemblée communautaire fransaskoise, a exprimé beaucoup de peine pour les familles et amis de ces jeunes en déclarant: dans ce temps-là, on pense à nos enfants, aux familles et amis touchés, ainsi qu'aux personnes dépêchées sur les lieux. Elles aussi, elles vont rester marquées par les événements. Au moment de l'accident, on était à Nipawin et on a vu les ambulances, les pompiers et les polices de la place se déplacer très rapidement. Là, on s'est dit qu'il s'était passé quelque chose de très grave, pas loin. Et notre inquiétude s'est amplifiée quand on a su que le match de hockey était annulé. Je tiens d'ailleurs à offrir toutes mes sympathies aux familles et aux amis touchés. Toutes les personnes qui ont été contactées par l'eau vive ont partagé le même sentiment et offrent leur sympathie aux familles et amis touchés par l'événement. Bien que l'enquête de la police et de la GRC ne soit pas terminée, des personnes interrogées se sont déjà prononcées sur des raisons possibles qui auraient pu provoquer la tragédie. Selon certains, il est probable que le camionneur n'ait pas fait son arrêt obligatoire, et cela malgré la présence d'un panneau de signalisation et d'un feu rouge clignotant qui annonce clairement l'arrêt. Le semi-remorque venait de l'est et l'autobus allait vers le nord en direction de Nipawin, et c'est le camion qui avait un arrêt obligatoire, a expliqué M. Gilbert Ferré, maire de Zénon Park. D'autres croient que c'est possiblement le soleil qui a aveuglé le conducteur du camion, ce qui l'a empêché de voir l'arrêt obligatoire et l'autobus qui arrivait à sa gauche. Il est aussi possible que le camionneur ait bien effectué son arrêt, mais que l'autobus n'ait pas été visible pour des raisons qui sont encore inconnues. Tous les Fransaskois interrogés qui habitent cette région s'entendent pour dire que l'intersection entre cette autoroute et cette route n'est pas la plus sécuritaire et que des mesures de prévention devraient être apportées. Bien qu'il y ait déjà un panneau et un feu rouge, M. Lheureux propose que l'on place des zones ondulées sur la chaussée avant l'intersection afin de prévenir davantage les automobilistes de l'arrêt obligatoire. Certains Fransaskois soulignent aussi la présence des arbres sur un côté de l'intersection, ce qui a pour effet de réduire la visibilité sur l'autre côté de l'intersection. Cette catastrophe routière nous rappelle tristement deux autres accidents. Le premier de ces deux malheureux événements s'est produit en 1986 sur l'autoroute 1 de la Saskatchewan. L'autobus d'une équipe de hockey junior de Swift Current, qui s'appelait aussi, croyez-le ou non, les Broncos, a fait une sortie de route et quatre jeunes hockeyeurs y ont péri. Le second accident a eu lieu il y a quelques années et impliquait la voiture d'une famille de l'Alberta et un camion. Les six membres de la famille qui occupaient la voiture ont tous succombé. Cet accident s'est produit à la même intersection que la tragédie de cette semaine. Les Fransaskois interrogés qui habitent la région ont tous fait référence à l'accident de cette famille et prétendent qu'une réflexion gouvernementale s'impose quant à des mesures destinées à renforcer la sécurité de cette tristement célèbre intersection. Et puis, sur le même sujet, cette tragédie de Humboldt qui provoque une hausse de donneurs d'organes. On est toujours dans l'eau vive. Cette tragédie qui a frappé les Broncos en Saskatchewan a entraîné une augmentation du nombre d'inscriptions sur la liste des donneurs d'organes au pays, écrit Marie-Pierre Mercier. Logan Boulet, un hockeyeur de 21 ans, originaire de Lethbridge, dans le sud de l'Alberta, a été mortellement blessé dans l'accident d'autocar qui a fait 16 morts et 13 blessés le 6 avril près de Teesdale. Le jeune défenseur avait récemment signé sa carte de don d'organes. Il a été maintenu en vie artificiellement jusqu'à ce que des receveurs compatibles soient trouvés. Sa décision a permis de sauver 6 vies. Je pense que Logan a vraiment incité les gens à faire la même chose que lui, dit Daniel Berger, 29 ans, qui s'est inscrite en tant que donneuse d'organes cette semaine. Shania Christensen, 22 ans, a choisi de faire de même. Le choix de Logan Boulet m'a vraiment inspirée. J'ai donc pris la décision de m'inscrire moi aussi. Il a été si courageux de signer sa carte pour devenir un donneur d'organes et sa volonté de faire un don incitera certainement d'autres personnes à suivre son exemple, a dit la jeune femme. Depuis dimanche, plus de 10 744 Albertains ont fait la même chose que ces deux femmes selon les services de santé de l'Alberta. Il s'agit d'un nombre 10 fois plus élevé qu'à l'habitude au cours d'une même période. Cela porte le nombre total d'Albertains qui ont fait part de leurs intentions en cas de décès à 473 605. Ça me donne tellement d'espoir de voir que le taux augmente et que plus de personnes sauvent des vies comme quelqu'un a sauvé la mienne, affirme Amy Montgomery, qui est une femme de 34 ans qui a reçu une greffe du foie cet été. Toutefois, selon les services de santé de l'Alberta, seulement 2% des décès peuvent aboutir à des dons d'organes, et ce, même après un élargissement des critères d'admissibilité effectué il y a 3 ans. Il est très important de discuter de son choix avec sa famille, selon Ryan Butt, coordonnateur des donneurs d'organes au service de santé de l'Alberta. Au bout du compte, c'est la famille qui a le dernier mot. Cela veut dire aussi qu'une famille pourrait tout de même décider de faire un don d'organes, même si leur proche décédé ne s'est pas inscrit en tant que donneur potentiel. Mais c'est très rare qu'une famille ne respecte pas les vœux du patient. James Breckenridge, président de la Société canadienne de transplantation, rappelle, quant à lui, qu'il n'y a pas d'âge limite pour faire don de ses organes. « Le donateur le plus âgé en ce moment a, je crois, 90 ans », dit-il. « Le don d'organes n'a rien à voir avec l'âge. Ce sont la viabilité et la santé des organes qui sont importants. Il ne faut pas oublier que la peau ne cesse de repousser. Les greffes de peau peuvent sauver la vie des victimes de brûlures au troisième degré. C'est quelque chose qui peut être donné à n'importe quel âge », conclut-il.
I lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name. I lost my name in a Tokyo kiss. Are you? And ooh, are mine. please, please kiss me again. When I forget my name again, oh, kiss me one time, oh, kiss me two times, mm-hmm. Kiss me three times.
Mike a quitté.
I lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name.
Alors après le papa, en début de cette demi-heure, c'était le fils Arthur H, donc Arthur Higelin, qu'on vient d'entendre sur les ondes de Canal M. Nous voici maintenant dans auroreboreale.ca, qui est un journal francophone du Yukon. Anna Tulgizi, j'espère bien prononcer son nom, lance une pétition pour l'accessibilité aux études. C'est Marie-Hélène Comeau qui signe ce papier. Inquiète par le peu d'options d'études postsecondaires offertes en français dans l'Ouest et le Nord du pays, une jeune franco-yukonaise a récemment décidé de sensibiliser les politiciens à cette réalité. Anna Tulgizi, 16 ans, a lancé une pétition sur le sujet afin qu'il soit abordé à la Chambre des communes. Anna Tulgizi veut sensibiliser les gens à la réalité des communautés francophones en milieu minoritaire qui désirent poursuivre des études postsecondaires dans leur langue. Lorsque vient le moment pour les élèves francophones en milieu minoritaire de poursuivre leur scolarité, une fois les études au secondaire terminées, le choix peut s'avérer difficile. C'est le cas de plusieurs jeunes franco-yukonais qui doivent faire le choix de poursuivre des études collégiales ou universitaires en anglais plus près de chez eux ou de poursuivre des études en français en déménageant plus loin. C'est la réalité à laquelle Anna Tulgizi, étudiante en 11e année à l'Académie Parelli, doit déjà commencer à se préparer. Il y a bien la possibilité d'étudier en français en Alberta ou en Colombie-Britannique, mais le nombre de programmes offerts en français est très limité, explique-t-elle. J'ai beaucoup d'amis aussi qui ont dû partir loin pour étudier en français à Moncton ou à Ottawa. Sa sœur aînée étudie d'ailleurs en ce moment en français à l'université de Moncton, tandis qu'une autre de ses sœurs envisage également d'aller y étudier à l'automne prochain. C'est au cours d'un récent travail scolaire en sciences humaines portant sur les pétitions citoyennes que l'idée de lancer ce projet a germé dans l'esprit d'Anna. L'idée a fait son chemin, si bien que le 2 mars, avec le soutien du député fédéral du Yukon, Larry Bagnall, Anna a pu déposer officiellement sa pétition en ligne. Il ne s'agit que de la première étape, bien sûr. Si d'ici le 30 juin, la jeune franco-yukonaise réussit à amasser 500 signatures en ligne, M. Bagnall pourra alors entreprendre la lecture de la pétition en Chambre des communes, ce qui permettra d'entamer enfin des discussions à ce sujet, espère Anna. Bien qu'une pétition signée sur le support papier ne requiert que 25 signatures, le choix d'Anna s'est toutefois arrêté sur la version en ligne qui requiert plus de signatures, soit 500. J'aime bien l'idée de mettre la pétition en ligne puisqu'elle permet à tous les gens au pays d'y participer ou de commencer une réflexion sur le sujet. Le support papier n'aurait pas eu le même impact, explique celle qui confie s'être initiée au fonctionnement politique grâce à sa participation au récent Parlement jeunesse pan-canadien. Jusqu'à présent, j'ai pu accumuler 374 signatures d'un peu partout au pays. C'est vraiment encourageant, se réjouit-elle. Une enquête menée en 2009 par l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques confirmait déjà à l'époque le bien fondé de la préoccupation d'Anna. L'étude démontrait que des pourcentages importants d'élèves de la 12e année des écoles francophones en milieu minoritaire choisissent de poursuivre leurs études postsecondaires dans des établissements anglophones ou dans des programmes offerts principalement en anglais, dans les établissements bilingues. Selon l'étude, ce phénomène était relié principalement à l'absence dans certaines régions d'établissements postsecondaires francophones ou de programmes d'études offerts en français dans les domaines d'intérêt des élèves. L'étude soulignait que les grandes distances entre les établissements postsecondaires qui offrent les programmes d'études ou de formation professionnelle en français que veulent suivre les élèves et leur domicile représentent un problème important des communautés francophones en milieu minoritaire. Encore aujourd'hui, il est reconnu que l'accès à une formation collégiale ou universitaire en français et l'obtention d'un diplôme pour des études réalisées en français participent à la vitalité linguistique des communautés francophones en milieu minoritaire. Pourtant, alors que des gains considérables ont été accomplis ces dernières années en ce qui concerne l'accès aux études primaires et secondaires au pays, la question de l'accès aux études postsecondaires en français reste souvent absente des discussions. Il s'agit d'une tendance que l'élève franco-yukonaise tente ici de renverser à travers sa pétition qu'il est possible de signer en se rendant au site de la Chambre des communes. J'ai signé cette pétition et vous, je suis allé sur pétition.nocommunes.ca.fr/pétition. Donc, pétition.nocommunes, si vous faites cela et qu'ensuite vous allez cliquer sur pétition, vous allez forcément trouver la pétition de cette jeune femme. Avant que se referme ce magazine Le National, j'ai envie de vous lire un papier que j'ai tiré de laliberté.ca. Ça nous vient du Manitoba, où il est question d'une personne, ma foi, fort importante là-bas, qui tire sa révérence. Il s'agit de Richard Dupas, qu'on appelle aussi le magicien des planches. C'est Marie Bergvens qui signe ce papier dans laliberté.ca. En 1984, Richard Dupas devient le directeur technique du théâtre Cercle Molière. En mai prochain, il travaillera sur son dernier festival, Théâtre Jeunesse. Son premier comme chef technicien remonte à 1980, c'est dire s'il a le théâtre dans la peau. Lorsqu'on rencontre Richard Dupas, le prendre en photo n'est pas une tâche aisée, pas parce qu'il se montre récalcitrant, mais plutôt parce qu'aucun lieu ne s'impose vraiment. Je travaille partout ici. En effet, l'homme qui a passé plus de la moitié de sa vie au théâtre, à son bureau, en régie, dans l'atelier, sur scène, voire même au-dessus de la scène, on peut comprendre qu'il ne sache où aller pour la photo. Alors d'où vient-il, Monsieur Dupas? Il est né à Gravelbourg, il y a 62 ans. C'est plutôt un gars discret de la plaine. Mais lorsqu'on commence à parler théâtre, les langues se délient et le directeur technique devient même très loquace. En 1974, à l'ouverture du Centre culturel franco-manitobain, le Cercle Molière s'installe dans la salle Pauline Boutal. Son ami, Charles Lavac, l'encourage à aller voir la gang du Cercle dont font partie Georges Baudry, Denis Duguay ou encore Aimé Vincent. Deux joyeux drilles. On arrive ici en voiture, on sort et tout à coup, une explosion retentit juste derrière nous. Ils avaient caché un fil dans la terre et avaient fabriqué un petit canon. Je me suis dit « Wow, ça c'est le fun !» Objectif théâtral de cette opération, sans doute lui jeter de la poudre aux yeux. Et le coup a réussi car Richard Dupas a eu envie de faire partie de cette fine équipe-là. Et c'est ainsi qu'il est tombé dans la marmite du Cercle, du fameux Cercle. L'une des premières pièces qu'il a supervisées en qualité de directeur technique et dont il se souvient avec nostalgie, c'est K2. Les problèmes pratiques à résoudre, il connaît. Pour lui, question décor, rien n'est impossible. Si l'on peut faire une montagne énorme pour K2 ou réunir sur scène 23 personnes, comme dernièrement dans Les Halogènes, on peut faire pas mal n'importe quoi. On le sent, c'est une passion tranquille qui l'anime. Au fil de l'entretien, Monsieur Débrouillardise, comme on l'appelle très gentiment, sort une maquette d'une armoire. Pour la pièce et que ça saute, le défi était de construire un ascenseur dans un espace très réduit. Et ensuite, l'autre défi, de le faire disparaître de l'imaginaire des gens. C'est là qu'il faut savoir comment jouer avec l'éclairage. On peut encore citer d'autres prouesses techniques chères au directeur technique, comme faire venir une camionnette sur scène pour M-Fugue ou encore monter une bâtisse dans les airs pour Zone. Richard Dupas, c'est un peu le magicien des planches qui traverse les décennies, à l'image un peu de Merlin l'Enchanteur, mais sans la barbe et en plus bricoleur, faute d'une vraie baguette magique. En plus discret aussi, ce pilier du cercle a passé sa vie dans l'ombre côté coulisses. Dans ses tout débuts, une fois, en 1975, il a basculé côté lumière. Le directeur artistique, Roland Mahé, m'avait approché en me disant qu'il avait un petit rôle pour moi. J'avais une ligne, je disais « oui ». J'entrais en faisant comme si j'étais sous. L'expérience ne m'a pas donné envie de continuer. Je voulais juste voir ce que ça faisait. Et ça a été bien le fun. Un magicien en chef est forcément entouré d'apprentis magiciens, car le travail de directeur technique a toujours été avant tout un travail d'équipe. Souvent, dans la vie, ce n'est pas ce que tu connais, mais qui tu connais. Les jeunes qui venaient ici pendant leur formation m'ont apporté un tas de nouvelles connaissances. Et moi, je leur apprenais ce que je connaissais. J'ai travaillé sur des équipements avec lesquels ils n'avaient jamais travaillé, c'est sûr. Avant que les ordinateurs apparaissent, je faisais les montagnes sonores au moyen de bandes magnétiques et de rubans adhésifs. Mon objectif était toujours de donner la meilleure production que je puisse faire sur le plan technique. Je me suis toujours dit qu'on ne pouvait évidemment pas faire la pièce sans comédien. Et eux autres disaient que sans la technique, ça ne marche pas tellement bien non plus. Une pièce est réussie quand tous les éléments deviennent un. Tout l'affaire se résume à ça. En 1997, le Cercle Molière déménage dans le Théâtre de la Chapelle sur la rue Saint-Joseph, au nord du boulevard Provencher. Une salle plus intimiste d'environ 75 places. Il y avait une autre énergie qu'il a fallu que j'apprivoise parce que la distribution était restée assez large pour la petite place. On était soit sur la scène ou dans une petite loge. J'ai beaucoup apprécié la patience des comédiens à cet endroit-là. Il y a quand même eu des vrais bons moments, des moments que je décrirais comme paroissiaux. C'était aussi la première fois que le Cercle devenait propriétaire d'une salle. Sauf, je me souviens, on était dehors avec Roland Mahé et je lui ai dit « Le Cercle Molière a finalement quelque chose ». C'est comme ça que l'élan a commencé pour se rendre jusqu'ici. En 2010, la compagnie prend place dans son nouveau chez-soi, le théâtre Cercle Molière sur Provencher. Il y a eu un énorme travail qui a été fait. Je veux tout simplement que ça continue. Le Cercle a 93 ans. Il faut qu'il continue à vivre. Le Cercle, c'était ma grande famille, c'était mes frères, mes sœurs, mes cousins. Les gens qui travaillent là vont réussir. The show must go on. Il n'oubliera jamais, hein, je vous le disais, K2 en 85, pièce américaine de Patrick Myers qui raconte la mésaventure de deux alpinistes bloqués sur un massif montagneux. Une montagne, une véritable montagne sur la scène modeste et en plus une montagne qu'il fallait que les deux comédiens grimpent. Voilà pour ce papier sur Monsieur Dupas qui finalement part en retraite après un travail bien accompli au Cercle. Voilà ce qui met un terme à l'émission Le National. C'était Clotilde Seille, pardon, qui remercie beaucoup Maurice Bolduc et qui vous remercie, vous, d'être là. Bonne semaine. À bientôt. À la semaine prochaine, tiens.